Bonsoir à vous depuis Kinshasa, N'Djamena ou Ouagadougou et Kabadou avec vous depuis le studio 9 de la Voix de l'Amérique où, à votre avis, se penche ce lundi 14 août sur la menace terroriste sur le continent. À votre avis, les États africains ont-ils les moyens de l'éradiquer? D'où viennent ces terroristes? Nous avons près d'une demi-heure pour en débattre en direct. Pour participer, c'est simple, vous pouvez appeler au 001 202 619 31 40 ou laisser votre numéro de téléphone et rendez-vous également sur le www.voafrique.com. Avec nous pour en débattre tout au long de cette émission, Idriss Fall, rédacteur en chef de la rédaction radio et grand reporter ayant couvert toutes ces zones. Nous avons également un auditeur qui est à Ouagadougou, qui s'appelle Joël Ouadréogo pour témoigner. Il est directeur général de l'entreprise Megamonde et aussi ancien promoteur. Donc on va pouvoir bientôt ouvrir les micros. Donc n'hésitez pas à participer. Au moins 18 personnes ont perdu la vie hier dans un attentat qui est survenu à Ouagadougou. Et avant de parler de vos témoignages, nous allons donner la parole à un habitant de cette ville, Joël. Joël, bonsoir, vous êtes avec nous? On a Lazizé qui est à New York, mais c'est encore trop tôt car nous avons énormément de témoignages sur Facebook et énormément d'amalgames car terrorisme, islamisme ne veut pas dire forcément musulman. En tout cas, il ne faut pas le dire de cette manière-là puisque les musulmans, quand ils sont vraiment croyants, ils n'agissent pas de cette manière. Donc on va peut-être donner la parole à les auditeurs en parlant des notes que vous avez pu mettre sur Internet, sur Facebook. On a de nombreux témoignages et vous disiez... Kilomètre Idriss Fall, c'est ça? Alors Idriss Fall, c'est encore trop tôt pour le faire intervenir car nous n'avons pas encore les auditeurs. On va donc parler de ce qui est sur la toile. Donc les nombreuses armes sont citées, des armes qui viennent pas d'Afrique. Nombreux auditeurs disent « toute arme à feu ou explosif ne provient pas de l'Afrique ». Et tel que c'est parti, c'est les Africains eux-mêmes qui se servent de ces armes pour tuer leurs frères, quelle que soit leur solution. Ça ne sera pas facile d'éradiquer le terrorisme en Afrique. Là, il s'agit de témoignages de Wilfried Jim Nadjodar. On a également Patrick Makobo qui dit « difficile mais impossible, ce ne l'est pas, car les terroristes ont des parrains dans certains pays. Il y a les officiers qui donnent des armes aux rebelles une fois attrapés et ils ne sont pas inquiétés ». Nous avons également d'autres témoignages. Tant que les Africains seront à la solde des Occidentaux, il y aura toujours le terrorisme en Afrique, car le terrorisme, c'est les Occidentaux et les États-Unis d'Amérique. Autrement dit, des accusations très très lourdes. Idriss Fall, vous êtes avec nous en ligne?
C'est un peu exagéré de mettre les États-Unis dans le terrorisme, à sens que c'est l'un des pays aussi, pour ceux qui ont subi les attentats du 11 septembre 2001, deux grands tours de New York qui sont tombés en poussière, à présent plus de 3000 morts. La France, quand même, qui ne se souvient pas ou a oublié ce qui s'est passé à Nice, ou bien récemment à Paris même, jusque devant le Stade de France, où des innocents ont été tués. Donc ça, c'est de l'amalgame, ou bien ne pas savoir de quoi on parle, ou bien accuser qui on veut, quoi. Mais le terrorisme, je pense que quand même Boko Haram, qui sévit là-bas partout dans la région, c'est pas la France. Le groupe État islamique qui avait proclamé son califat là-bas à Mossoul, en Irak, je pense que ce sont les Américains, les Français qui vont essayer de les combattre. Et c'est la même chose aujourd'hui au Mali.
Alors,
au Mali, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'attaques attribuées à des terroristes. Je ne pense pas que ces gens soient armés par la France ou les États-Unis.
Eh bien, c'est vrai qu'on a une dizaine d'auditeurs qui écrivent ce type de propos. On va prendre celui, par exemple, de Gaylor Matwala, qui dit « Mon avis peut être banal, mais je m'y mets quand même. Je pense que la France cherche la bonne raison de s'éterniser en Afrique en exportant la guerre contre le terrorisme, parce que les coups d'État et les assassinats de chefs d'État, ça marche plutôt bien. » C'est quand même
oui, la
fort.
France a bon dos. Je pense que les gens peuvent dire tout et n'importe quoi et essayer de mettre ça sur le dos de la France. Mais tout le monde sait, pour ceux qui ont gouverné la guerre au Mali, quand les djihadistes ont occupé le nord du Mali, et même ont lancé une offensive fulgurante vers Mopti là-bas et Savaré, si les soldats français n'étaient pas intervenus, tout le monde sait qu'aujourd'hui, ces djihadistes seraient à Bamako. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on peut attaquer la France. Moi, je me rappelle quand les Français sont venus, les drapeaux français se vendaient comme de petits pains dans les rues de Bamako. Donc, c'était là.
On a encore d'autres témoignages qui disent que le terrorisme est venu après la mort de Kadhafi. Que répondre également à ce genre de commentaires ?
Oui, mais c'est que dans le flux des armes, effectivement, il y avait beaucoup de gens du Moujao, qui était le groupe djihadiste qui contrôle le nord du Mali. Beaucoup d'entre eux sont revenus de Libye après la mort de Kadhafi. Et que pour ceux qui connaissent bien le Mali, certains d'entre eux ont même été reçus par le président Amadou Toumani Touré de l'époque. Et quand la rébellion a commencé là-bas dans le nord du Mali, les rebelles qui s'appelaient le Mouvement National de Libération de l'Azawad, ils sont venus avec d'autres qui n'avaient pas des dessins laïcs ni quoi que ce soit. La preuve, c'est eux-mêmes qui ont aidé à la prise de Gao. Ce n'est qu'une conséquence, c'est-à-dire dans les armes qui ont circulé dans la région. Mais le Mali n'a pas une frontière commune avec la Libye. Pourquoi est-ce que le Niger, qui a une frontière commune avec la Libye, n'a pas explosé ?
C'est effectivement de vastes questions, comme d'où viennent les armes. En tout cas, avant qu'on continue ce débat, on va donner la parole à un habitant de Ouagadougou qui s'appelle Joël Ouadréougo. Donc on va aller vers Ouagadougou avec ce responsable d'une grande entreprise et également une personne qui était très impliquée dans le milieu de la nuit. Bonsoir Joël. Est-ce que vous m'entendez Joël ? On a peut-être un problème avec la ligne. On a perdu Joël Ouadréougo qui donc lui... Il y a un problème de ligne visiblement. Mais Joël Ouadréougo est une personne qui vient de Ouagadougou. On va essayer vraiment de la voir après pour avoir son témoignage car il connaissait des personnes qui étaient donc dans le café d'hier. On va aller du côté du Mali avec un auditeur qui s'appelle Brahima Doumbia. Bonsoir Brahima.
Bonsoir à tous les auditeurs de la VO.
Vous nous entendez bien ?
Oui, je vous entends très bien.
On est ravis. Par contre, il faut éteindre la radio derrière vous car on entend l'écho et c'est pas agréable. Donc on vous écoute pour votre avis.
Bonsoir à tous. Je pense que, comme on le sait tous, l'Afghanistan, c'est trois fois le Mali. Mais on sait très bien que tous les moyens ont été mis pour éradiquer le terrorisme en Afghanistan. Mais malheureusement, on a battu. Le Mali, avec ses mecs moyens, tente envers. Mais malgré cela, le terrorisme n'est pas que s'amplifier, surtout dans la zone sahélo-sahélienne. Je pense que le G5 qui a été mis en place pour éradiquer, si vous voulez, ce terrorisme, on le souhaite quand même que la mise en place soit faite dans l'immédiat, mais vu les moyens colossaux que cela demande, je pense qu'il sera très difficile. Alors je pense que les États africains doivent mettre la main dans la poche pour prendre la sécurité en main, surtout. Ce terrorisme, il faut le dire, ce n'est pas quelque chose d'importer ou venir d'ailleurs, non. C'est le fait que les gens n'ont pas d'emploi, surtout, il faut le dire, les gens n'ont pas d'emploi. C'est ce qui pousse beaucoup de gens à y entrer, à penser que s'ils entrent dans ce domaine, ils pourront s'enrichir, si vous voulez, à travers le narcotrafiquant, à travers la vente d'armes, tout.
Je vous remercie, Brahima, pour votre avis. Donc, pour vous, un besoin de moyens pour pouvoir aider tout ce qui est l'armée et également plus d'emplois pour permettre qu'il y ait moins de recrues au sein de ces organisations. Merci pour votre appel. On a un autre appel qui nous vient de la Guinée en la personne de Koutoub. Bonsoir.
Bonsoir madame,
vous nous entendez bien ? On vous entend très très bien. Quel est votre avis concernant le terrorisme qui menace le continent et comment faire pour l'amener à bout et le vaincre ?
Ok, le terrorisme en Afrique, vraiment c'est un grand problème pour nous les Africains et vraiment avec nos dirigeants. Parce que, comme l'Afrique, on dirait que les Africains sont des pauvres. C'est tout ce problème-là, c'est l'Occident, les Européens qui financent les terroristes.
C'est votre avis, ça ?
La Libye, oui, c'est mon avis.
D'accord.
Mon avis.
D'accord.
Parce que si vous prenez les pays africains, au moins on peut citer les deux pays qui fabriquent. comment on appelle ça ?
Les armes ?
Les armes. Donc, toutes les armes là sont... C'est les Européens qui financent, qui fabriquent les armes et envoient ça en Afrique pour acheter et encore mettre les moyens autour du ciel pour que l'Afrique ne sera jamais en paix. Donc, pour remédier à cela, il faut que nous, les Africains et les dirigeants prennent leur destin en main et travaillent beaucoup et...
Ça s'entrecoupe. Et créer, vous disiez ? Créer, oui. Ça s'entrecoupe quand vous parlez de temps en temps.
Union, voilà. Union. On va avec le Nord, avec le Nord, Occident, des trucs comme ça. Il faut que l'Afrique soit unie.
Alors, il faut créer une union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Merci beaucoup pour votre appel. On va céder la parole à un autre auditeur également en Guinée. Il s'appelle Mamadou Alpha Baldé. Bonsoir.
Ah, bonsoir, madame. Vous allez bien?
Je vais bien, je vous remercie. On vous écoute pour votre avis.
Je commence à adresser mes condoléances aux familles éclairées par rapport à l'attentat d'hier. Comme je le disais tantôt sur la page Facebook, je disais qu'il faut que les États se donnent leurs mains pour lutter contre le terrorisme. C'est un phénomène qui, aujourd'hui, qui est à la portée de tous les États, qui est à la portée de toutes les nations, et pour pouvoir se donner les mains. Il faut savoir que un seul État ne peut pas lutter contre le terrorisme. En plus, il faut favoriser la bonne gouvernance, lutter contre la pauvreté, parce que si nous voyons aujourd'hui que ces jeunes adhèrent à ce genre d'idéologie ou ces djihadistes, c'est parce qu'il y a la pauvreté aussi qu'il faut reconnaître en Afrique. Les djihadistes profitent de cette pauvreté pour attirer l'attention des jeunes et les arrêter dans ces actes ignobles.
Oui. Mais en tout cas, merci pour...
Je crois que...
Oui. Allez-y.
Je crois que c'est quelque chose qui peut toucher tout un chacun de nous. Nous devrions prendre conscience, chacun... qu'il puisse bien communiquer par rapport à l'existence d'un réel danger, le terrorisme. Je voudrais rappeler que un phénomène qui est dit islamique, ça n'a rien à voir avec le monde musulman ou les musulmans en général. Moi, je suis un musulman convaincu que le terrorisme n'a pas sa place au sein de l'islam ou dans la communauté musulmane.
Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Il y a beaucoup de réactions sur Facebook et notamment beaucoup d'amalgames. J'ai notamment un auditeur qui dit « Les terroristes habitent avec nous. C'est un peuple qui est très très triste et malheureux et ils sont toujours musulmans. » Alors, pour répondre aussi encore à ça, parce que ça revient beaucoup, je vais donner la parole à Laziz, qui est donc à New York et professeur à l'université Saint-Georges. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous avez pu entendre certains témoignages. Et qu'est-ce que vous aimeriez apporter, vous, comme témoignage par rapport à l'amalgame que nous avons souvent?
Oui, c'est vraiment malheureux de lire, n'est-ce pas, des réactions comme ça qui font l'amalgame entre l'islam et le terrorisme. Il faut rappeler déjà l'actualité aux États-Unis, c'est les racistes blancs qui font du terrorisme également. Ce que je veux dire par rapport à l'islam, c'est que le vrai islam interdit les meurtres un peu partout parce qu'il se dit, chez les vrais musulmans, qu'un musulman qui tue une personne, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et un musulman qui sauve une personne, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Donc, le terrorisme n'est pas un chapitre inscrit dans la foi des musulmans, ce qui fait que nous sommes dans un contexte du terrorisme international qui concerne toutes les religions, peu importe que vous soyez musulman, chrétien ou hindou. Si vous regardez l'actualité internationale, vous allez constater que nous traversons une période très difficile. Ce qui fait que, généralement, dans des communautés très appauvries, qui traversent des difficultés, qui font face à la dictature, qui sont dans la pauvreté. Les gens se radicalisent de plus en plus, sans toutefois avoir un quelconque rapport avec leur fondamentalisme religieux. C'est tout à fait des réactions face à la misère, et les gens arrivent, n'est-ce pas, à créer dans de la violence, n'est-ce pas, pour des prétextes tellement fallacieux. Donc, pour moi, en Afrique, le combat contre le terrorisme devrait s'atteler sur plusieurs leviers. On ne voit pas seulement avoir la solution militaire au terrorisme international en Afrique, parce que déjà, les Africains n'ont pas les moyens militaires pour contrecarrer le terrorisme international. Il faut qu'on essaye de revoir les structures de bonne gouvernance, la société civile, pour essayer de mettre les gens ensemble, pour trouver des solutions sociales, n'est-ce pas, aux crises qui traversent, n'est-ce pas, les États fragilisés en Afrique. Quand vous regardez, par exemple, des jeunes qui se noient dans la Méditerranée ou autre, c'est une situation très grave qu'on n'en parle même pas. Et c'est dans ce
bon, quand même, c'est vrai qu'on en parle quand même. Hein. On en parle, mais malheureusement, ça ne résout pas la motivation de certains de se jeter dans des réseaux avec des passeurs qui sont vraiment pas très honnêtes. En tout cas, restez avec nous en ligne. On va quand même donner encore la parole aux auditeurs qui appellent nombreux, mais restez avec nous en ligne. Nous avons également des témoignages sur Facebook qui sont vraiment très poignants. Nous avons celui de Oumar Diallo Tcherno qui dit que très malheureusement, il faut qu'on ose dire la vérité. L'Afrique ne pourra pas stopper le terrorisme car aujourd'hui, on n'a ni stratégie, ni les moyens, ni la volonté. Les terroristes ne viennent de nulle part. Ils sont parmi nous, dans nos différentes familles. Les groupes de terroristes ont au sein d'eux de toutes les religions et de toutes les races. À mon avis, les forces ne vaincront jamais le terrorisme. Donc c'est quand même assez pessimiste. On a également Sadio Ibrahim qui dit « Nos États africains doivent investir dans l'information et le renseignement pour éradiquer le terrorisme. Il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle, mais un conflit invisible qui ne peut être combattu que par une coopération des populations. Sans la complicité des populations en termes de dénonciation et de renseignement, on ne peut lutter contre le terrorisme. Déployer des forces armées, c'est maintenir la paix et la sécurité, mais pas lutter contre le terrorisme. » Avant qu'on redonne la parole à Idriss Fall, on va écouter le témoignage de Sergio qui est au Tchad. Bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, on a vraiment envie d'entendre votre avis. Quel est votre avis sur le thème d'aujourd'hui, le terrorisme, comment le vaincre en Afrique ?
Oui, je crois que le terrorisme, c'est un phénomène sans frontières. Et pour le vaincre, il faut que les États africains s'unissent. Ils doivent s'unir pour lutter contre le terrorisme. Et pour cela, il faut qu'ils se dotent aussi des moyens modernes. Autrement dit, avec les armes modernes qui puissent combattre ces terroristes-là. Et il faut aussi former les agents de sécurité. On ne doit pas les laisser comme ça dans l'État ou bien les ramasser directement, les mettre au front pour attaquer les terroristes. Ça ne peut pas réussir. Par exemple, avec les Boko Haram actuellement. Donc, on doit former les agents de sécurité, ou soit recycler ceux-là, ou les spécialiser dans le domaine du terrorisme. Et aussi, il faut renforcer l'enseignement de l'instruction civique dans nos écoles de base. C'est ça qui fait que si l'enfant est bien éduqué, il doit respecter aussi tout ce qui est comme norme dans son pays. Donc, il ne peut pas dérouter. Et il faut aussi créer des emplois aux jeunes. Si nous voyons que maintenant, il y a assez de terroristes, ceux-là recrutent aussi les jeunes sans emploi. Et si un jeune est sans emploi, tu veux lui donner de l'argent ou tu lui promets quelque chose, il est obligé d'aller il s'est rallié aux terroristes pour venir combattre son pays parce que son pays ne veut pas de lui. Donc, il faut également former les jeunes dans l'entrepreneuriat. Actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas cet esprit-là. Ils ne veulent pas entreprendre quelque chose.
Alors, on entend bien, vous avez proposé beaucoup de choses et qui reviennent pas mal. L'emploi, parce que finalement, c'est ce qui permet de recruter. C'est qu'aussi, il y a des personnes qui n'en ont pas, comme vous l'expliquez, d'autres l'expliquent également. L'instruction civique, je vous remercie beaucoup, Sergio, pour votre appel. donc l'instruction civique et également l'armement et la formation des armées. Idriss Fall, je vous reprends en ligne. Vous avez pu entendre les différents témoignages.
Oui, et il y a quelque chose quand même qui est vrai. Ce qui fait le vivier de l'extrémisme en dehors de la question idéologique, c'est la pauvreté. Et tous ces jeunes que vous voyez en train de traverser le désert pour aller mourir dans la mer Méditerranée là-bas, c'est le désespoir qui les fait partir. Et il arrive, moi, quand j'étais à Gao sous occupation des djihadistes, de voir des jeunes sénégalais là-bas. Et ils ont été recrutés par qui ? C'est par certains passeurs et qui leur promettent de l'argent. Et que ce n'est pas par hasard que plus tard, on retrouvera même des jeunes Sénégalais là-bas, à Sirte. On a retrouvé des jeunes Sénégalais dans le groupe État islamique là-bas, en Irak. C'est qu'à la base, quelqu'un l'a dit, je pense qu'il faudrait que nos États aussi, sur la question de l'emploi, qu'ils prennent ça beaucoup plus au sérieux, parce que la population africaine, pour l'essentiel, c'est une population jeune. Mais quand on a autant de jeunes qui sont désespérés, qui n'arrivent pas à trouver du travail, quand ils finissent l'université, ils n'arrivent pas à s'en sortir, donc vous voyez, ils vont aller se jeter dans tout ce qui peut leur offrir un certain espoir. C'est comme quand Boko Haram fait ses recrutements dans l'extrême nord du Cameroun, tous ces jeunes qui sont là, qui n'arrivent pas à trouver du travail, on leur promet de l'argent, on leur promet un salaire. Donc même si à l'époque du Moujao, il y a eu même quelques grognes, en sens que des jeunes qu'ils avaient recrutés n'ont pas été payés. Donc il faudrait que les États voient que la question de la démocratie, de la démographie, des jeunes qui n'arrivent pas à trouver du travail, c'est une bombe à retardement. Et toutes les organisations djihadistes, en fait, le comprennent. C'est là-bas où ils recrutent. Aujourd'hui, il y a comme une sorte de décentralisation. On trouve des mouvements djihadistes locaux. Au Mali, Amadou Koufa, qui a son groupe là-bas qui opère dans le centre du Mali. Quand on va aussi dans le nord du Burkina, le groupe de Ansar Islam là qui est dirigé par Mahmoud Ibrahim Diko. Donc on parle aussi d'un autre djihadiste qui est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc c'est comme si aujourd'hui les anciens groupes djihadistes ont trouvé sur le terrain là-bas en fait des gens qui partagent leur idéologie. Et autre chose aussi qu'on ne dit pas assez, c'est les djihadistes qui ils prennent souvent des étrangers en otage. Et il est clair et certain, beaucoup de gens disent que les Occidentaux payent pour la libération de leurs otages. Calculez en moyenne 5 millions d'euros, 15 millions d'euros par otage. Donc ça alimente leur caisse et que ça ne fait que se propager davantage. Mais il faut dire que les États, sur la question vraiment de la pauvreté, du chômage, qu'ils puissent s'atteler à trouver du travail pour les jeunes. Et c'est une question essentielle, ça.
Merci beaucoup, Idriss, pour votre éclairage. C'est vrai qu'on entend beaucoup les gouvernements dire qu'elles vont créer de l'emploi pour la jeunesse. On ne va pas forcément, dans tous ces États, forcément les emplois créés. Mais c'est un vaste chantier sur lequel il faut vraiment se pencher pour empêcher d'avoir autant d'enrôlements. On a enfin notre auditeur du Burkina Faso et ça serait très intéressant de l'entendre car il connaissait de nombreuses personnes hier. Bonsoir Joël. Joël au Burkina, une fois, Joël au Burkina, deux fois, on est ravis de vous avoir. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Ouagadougou, dans quelle énergie est en ce moment la population? Je suppose que ce n'est pas facile, mais quel témoignage vous pouvez nous donner par rapport aux personnes que vous connaissiez et leurs proches qui étaient dans le café Istanbul hier?
Merci de porter l'intérêt particulier à nos pays.
En plus, il nous reste 30 secondes, donc on va essayer de vous avoir avec le meilleur son possible. On vous écoute. Allô ?
Allô ?
Ah, c'est dommage. On entendait Joël expliquer que... Joël, on ne vous entend pas bien. Il faudrait parler vraiment fort, car il nous reste 30 secondes.
D'accord. Je disais que... On vous remercie de porter l'intérêt à notre pays, au Burkina Faso. Et on vous disait que nous sommes effectivement très, très, très touchés par cette abjection-là. Mais ce qui est sûr, nous, au Burkina Faso, on reste un peu courageux. Et le matin, on n'est pas plus travaillé normalement. notre société particulièrement est à peine à 200 mètres du lieu de ce crime-là, de cette horreur. Mais on a ouvert nos portes.
C'est déjà la fin. On aurait aimé vous avoir plus tôt, mais on vous garde vraiment en ligne et on vous prendra, j'espère, dans les prochaines éditions. Tout de suite, c'est la fin de cette émission. À votre avis, excellente soirée à vous.